J'ai dit, c'est pas vrai que je la verrai pas grandir puis qu'elle va grandir pas de père ou pire, avec un autre père. Non, mais j'avais cette image-là. Moi, je dis, ah ouais, c'est pas vrai que pour ma fille, je vais être juste comme une photo sur le piano, là.
Allô, Stéphane!
Allô!
Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à notre balado.
Merci de m'avoir invité. J'aime ça, parler de moi.
T'aimes ça? J'ai bien vu ça en pré-entrevue. Ça a duré 2 heures et demie. Je n'ai jamais fait une pré-entrevue aussi longue.
Il fallait que je skippe un spectacle pour enfants. Là, que
c'est correct. Alors, pour commencer, moi, ce qui me fascinait dans notre pré-entrevue, c'est que tu me dis que toi, tu sentais depuis plusieurs années qu'il se passait quelque chose.
En fait, moi, à mon école primaire, il y a un petit gars qui était un peu plus vieux que moi. Là, j'étais en 4e année, 3e, il était peut-être en 6e, 5e, peu importe. Et il avait eu ça, tu sais, puis une école primaire, c'était un petit microcosme, là. Mm-hmm. Et puis, ben, on avait appris pendant l'année que tel gars de 6e année avait une tumeur au cerveau, puis il était mort en comme 2 mois, là. Et puis moi, à partir de ce moment-là, j'avais une phobie de tout ça. Et puis comme au secondaire, j'ai comme commencé à faire des migraines puis des des céphalées. Fait que là, moi, j'étais sûr que j'avais ça. Qu'est-ce que... redire le mot, céphalée.
Continue, non, c'est juste que je suis en train de me dire, tu sais, dans la vie, on se dit souvent quand tu penses à quelque chose, souvent, mais d'habitude, on dit ça de manière positive,
oui,
ça l'arrive, tu sais, mais toi, on dirait que
j'aurais pu écrire Le Secret bien ouais, avant celui qui l'a écrit, mais c'est, pour vrai, c'est venu un moment donné, me hanter, du coup, donc, je me suis créé mon propre cancer.
C'est épouvantable.
Parce que c'est épouvantable, mais écoute, il n'y a personne d'autre qui peut se vanter qui a réussi à créer ça. Sauf les fumeurs. Ceci dit, justement, puis en plus, là, ma cousine était décédée d'une rupture d'anévrisme au cerveau. Fait que bref, j'étais très focussé sur ma tête, puis j'avais, est-ce que c'est moi qui a créé mes maux de tête avec mes angoisses ou j'avais des angoisses à cause que j'avais des maux de tête? On le saura jamais. Mais c'est ça, là, fait que je faisais des grosses angoisses là, au secondaire. Là, mon père, on était allé au privé, genre, où il avait fait aller un peu ses contacts pour que je puisse passer un scan parce qu'il disait...
Papa, il a fait aller ses contacts.
Ben non, mais je passais examen après examen, puis il me disait, ben non, tout est beau. Puis on dirait que j'y croyais pas. Ah. Et là, finalement, à un moment donné, mon père dit, regarde, là, il dit...
Lui, il te croyait, là.
Ben, il me croyait, il me voyait que je me sentais pas bien, puis que je faisais des crises de panique un peu, puis... C'était pas du tout dans ma nature, là. Je suis comme le happy guy, puis j'étais le joker, puis je faisais du sport, puis j'étais dans tous les comités à l'école, puis tu sais, fait que j'étais super actif, tu sais, j'étais pas un angoissé tout seul dans mon coin, taciturne. Fait que c'était pas moi, mais tu sais, pendant la nuit, souvent, je me réveillais, j'avais des maux de tête, puis je pensais que j'étais en train de mourir, puis que je faisais justement un AVC ou un anévrisme, ou blablabla. Fait que mon ami dit, garde, il dit, on va régler ça. Là. Fait que là, finalement, il avait réussi à me faire passer un... D'après moi, c'était un IRM ou peut-être un scan, là, je me rappelle pas. Puis que finalement, ben, il dit, ben non, garde, t'as rien. T'sais. Fait que là, j'avais vu, je pense, un psy une fois qui m'expliquait c'était quoi les symptômes, genre de crise, de panique. Je fais, ah ben oui, c'est ça que je fais.
OK, fait qu'après, c'était parti.
Après, c'était correct, ça s'est vraiment passé. OK. Mais c'était resté quand même dans le poêle, comme on dirait. Et à un moment donné, justement, je suis rendu à 28 ans, plusieurs années plus tard. Et j'ai recommencé à avoir des migraines très fortes pendant plusieurs mois. Mais tu sais, ça faisait comme un an que je réalisais une émission du matin à la radio. Bref, je me levais à 3h30, 4h du matin depuis un an. Je me couchais à minuit pour préparer le contenu du lendemain. Je travaillais toute la journée sur une émission de télé. Fait que j'étais brûlé.
Puis là, pour une fois, tu t'es pas dit,
C'est juste.
Je dois avoir le cancer.
Non, je me disais, non, je fais des migraines, je suis fatigué, je suis brûlé, je suis stressé. On venait d'avoir un bébé, on venait d'acheter une maison. Et là, le matin, la madame de l'assurance vie, l'infirmière, est venue nous faire notre petit questionnaire. Comment va votre santé, tout ça. Parfait, tout est beau. Elle dit, demain ou la semaine prochaine, je vais venir faire une prise de sang puis un petit pipi dans un pot. Fait qu'on fait parfait. Le midi, on va signer notre hypothèque. On signe toutes nos assurances, hypothèque, maladie grave, blablabla. Et genre, à 5 heures l'après-midi, je suis au studio en train de tourner un show. À un moment donné, je perds la vue d'un œil et je me mets à vomir en jet. Et là, j'ai... Non, t'as-tu vu l'exercice? C'était rien à comparer mon jet. Non, mais
ça devait être surprenant sur le plateau. C'est parce que j'imagine
Ah, mais j'étais pas sur le plateau. J'étais en train de briefer un invité qui s'en allait sur le plateau. Okay. C'était Benoît Roberge.
Ouais, j'avais le goût de te le demander.
C'était Benoît Roberge. Puis j'avais déjà travaillé avec lui, fait qu'on se connaissait bien. Puis à un moment donné, genre, je parlais. Là, j'ai perdu la vue d'un œil. J'ai fait, excuse-moi, je fais le pas, je reviens.
T'étais
j'ai vomi dans la face de Patrice Lécuyer. Et non, fait que c'est ça. Fait que je suis parti aux toilettes. Là, j'ai été malade. Là, je suis revenu. Là, j'ai fait, OK, la gang, je fais le pas du tout. J'ai appelé ma blonde. Elle m'a amené à l'hôpital. Et puis c'est là, fait que à 28 ans, je fais, j'arrive à l'urgence, j'ai mal à la tête, je viens de vomir, il me donne justement une pilule anti-migraine assez forte, il dit allez dans la salle d'attente, le médecin va vous appeler. Fait que 15 heures plus tard, le médecin m'amène, mettons 8 heures, là, c'était interminable. Mais là justement, là, on a un petit bébé de 2 mois là qui est parti de la maison à 3h, 4h l'après-midi. Il est rendu 11 heures le soir, puis là, je vois le médecin. Et là, il me regarde, je dis, ben, le mal de tête a passé, là. Fait que je sais pas ce que vous m'avez donné, mais j'en prends 2 caisses. Et là, il dit, ouais, mais puis pendant que je parlais, je me frottais dans le cou. Tu sais, souvent, parce que j'avais vraiment mal dans la nuque depuis le début, mais je dormais mal. Mon oreiller était trop gros, moi, te le dire. Fait que j'avais le cou cassé tout le temps. Fait que je me disais, faut que je change d'oreiller, je dors mal, j'ai mal dans le cou, je suis fatigué, je suis brûlé. Et là, finalement, il dit, ouais, dis-moi dans mon livre d'urgentologue, là, il dit, des gros maux de tête avec douleur à la nuque, tu sais, ça peut être une méningite, ça peut être une rupture d'anévrisme dans le cervelet.
Hey, il t'aurait pas dit cancer du cerveau, il t'aurait pas dit ça.
Ben non, c'est ça, mais il dit, si
mais
tu veux...
Mais qu'il pensait.
Il était vraiment sûr que ça allait être rien. Parce qu'il disait, si tu avais quelque chose de plus grave, tu serais beaucoup plus confus que ça. Là, parce
on
là,
se rappelle, t'as 28 ans aussi.
J'ai 28 ans, puis là, j'étais comme, hey, je travaille tôt demain, là, si je peux m'en aller. Il est rendu minuit, là. Puis, tu sais, là, ma fille qui pleurait, puis là, je fais, on va s'en aller. Puis là, c'est ma blonde qui a levé le flag. Hey, elle dit, on s'en retourne pas à la maison en pensant que t'as une méningite ou un saignement dans le cervelet.
Non,
là.
Fait qu'on...
Fait que là, elle dit, non, parce que lui, il m'a dit, il dit, je peux te faire un scan puis une ponction lombaire pour être sûr que t'as pas de sang comme dans la colonne. Et là, finalement, c'est ma blonde qui a dit oui. Fait qu'il dit, de toute façon, il dit, y a plus personne, là. Il dit, ça va aller vite. Mais ils nous disent toujours ça, puis c'est jamais vite. Et là, finalement, ça a été vite. Et là, je vais tout de suite faire le scan. Et quand je suis sorti du scan, la madame a dit, bon, ben allez porter cette enveloppe-là à telle porte, puis allez vous asseoir dans la salle d'attente. Et finalement, la madame qui était derrière la console, elle qui avait vu les images là, du scan, est partie à courir dans ses gougounes. Et là, elle dit, non, monsieur Aubry, elle dit, donnez-moi ça. Elle dit, je vais aller le porter, ça va aller plus vite. Je fais,
oh, ouais.
Là, il y a une petite alarme, il y a une petite lumière qui s'allume. Tu fais, oh, je viens de faire un scan au cerveau, puis il y a une madame qui est partie à courir.
Ouais.
Là, j'ai fait, bon, juste gentil, je l'avais fait rire un petit peu, j'y avais fait 2-3 compliments. Je dis, elle veut m'aider. Et là...
Ça fait rire parce qu'on fait des résonances magnétiques toutes les ans. Là, moi, je suis rendue aux 6 mois. Puis c'est toujours ma phobie. Je les regarde toujours quand je sors de ma résonance magnétique. J'essaie toujours de regarder un peu leur visage.
Moi aussi.
Voir si je peux avoir...
Puis, tu sais, j'ai côtoyé depuis comme 14 ans bientôt. Là.
Ouais.
J'ai passé 2 gangs qui sont partis à la retraite. Là, fait que là, j'ai comme le directeur de la résonance magnétique où est-ce que je suis à Sacré-Cœur. Il était stagiaire quand j'ai commencé. Puis là, c'est rendu le boss.
Donc,
moi aussi, j'essaie tout le temps de déceler leur regard. Ah, ouais. Ils sont impassibles.
Mais là,
c'était
assez clair. Là.
Ah, c'était assez clair. Fait que là, je me fais appeler tout de suite dans le bureau du médecin. Puis il dit, j'ai vraiment pas des bonnes nouvelles. Il dit, puis tu sais, il faisait comme des petits noms de la tête. Là. dit, j'ai vraiment pas des bonnes nouvelles. Puis il me regardait pas dans les yeux, là, il regardait à terre. Il dit, vous avez une immense masse du côté droit de votre cerveau.
Gros comme un pamplemousse.
Il dit, il me l'a pas dit sur le coup, là, mais il dit, vous avez une immense masse du côté droit de votre cerveau. Je vous hospitalise tout de suite, puis vous voyez le neuro première heure demain matin. Et là, la vie, ça, tu sais, là, la, c'est vraiment comme dans un film, là, tout est devenu flou. Au ralenti, je voyais ses lèvres bouger, mais j'entendais rien, là. Puis là, juste dans ma tête, c'est pas vrai, c'est un cauchemar. Puis moi, je prends souvent conscience dans mes rêves, mes cauchemars. Je fais, OK, c'est un rêve, fais ce que tu veux, c'est pas vrai. Je dis, réveille-toi, c'est pas vrai.
Ouais, c'est vraiment ça que ça fait.
Et là, je me suis retourné, j'ai regardé ma blonde. Puis là, encore là, j'ai encore l'image tellement imprégnée dans ma tête, là. Je me suis retourné, là, au ralenti, je vois juste ma blonde qui pleure en silence, qui a ma fille d'un bras, qui braille aussi. Elle, peut-être juste parce que c'est un bébé, là, peut-être pas là, que la nouvelle l'avait secoué tant que ça, elle avait 2 mois. Et là, je suis revenu, puis à un moment donné, le médecin commence à reparler. Le son revient, l'image un peu. Tu sais, puis il y a le double discours. Je fais « fuck, non, ça se peut pas. » Et à un moment donné, il dit « non, c'est vrai. » Puis la première pensée qui m'est venue après, c'est « tabarnane, je le savais. » J'avais raison parce que moi, toutes
mes... Est-ce que t'es dit ça à l'oncologue? J'avais raison.
Non, je dis pas ça « tabarnane » dans ma tête, là. C'est parce que je voulais pas sacrer en onde. Mais
il fais... s'entendait vraiment pas à ça.
Ah non, je me suis vraiment dit « je le savais, c'est moi qui avais raison » parce que, tu sais, toute ma gang d'amis, rien de moi, l'hypochondriaque, puis ici, puis ça, puis t'as rien, franchement. Tu t'en fais, puis j'étais pas hypochondriaque, je le savais. J'avais raison. Et finalement, c'est de même que tout a commencé.
Ben,
de toutes les popées.
Là, ça fait 13 ans. Mais moi, ce qui m'a beaucoup aussi marqué dans ce que tu me dis, c'est que moi, avant d'aller à mon opération, j'ai vécu une opération. T'en as vécu plus qu'une. Mais elle était bien placée, elle était petite. Toi, elle était énorme. Donc, il y avait vraiment un stress que tu aies des séquelles par la suite ou que peut-être même que tu restes sur la table d'opération. Tu as ton enfant qui a rendu 4 mois à peu près rendu là.
À l'opération, non, c'était 1 mois plus tard. Là,
ouais, c'est ça, 3 mois à peu près. Tu me dis que, tu sais, comment qu'on vit ça? Tu me dis que tu t'es beaucoup accroché au fait que tu voulais voir ta fille grandir.
Ah oui, puis moi, je menaçais le... le neurochirurgien, là.
Ouais.
Parce que dans les premiers jours, justement, là, je suis resté comme après l'annonce du urgentologue, je suis resté 5-6 jours à l'hôpital à faire des tests, puis tout ça. Puis le neurochirurgien venait me voir, dit, garde, c'est gros, dit, on sait pas c'est quoi. Il y a de la tumeur, mais il y a du liquide. Puis en plus, il dit, ça fait vraiment longtemps que c'est là parce qu'il dit, il y a déjà des zones de la masse qui est nécrosée. Qui est morte pour les gens à la maison, qui dit, bon, je vais aller chercher que veut dire nécrosé.
Sur Google.
Googler nécrosé, c'est-à-dire que c'est du tissu qui est rendu mort tellement que ça fait longtemps qu'il est là. Fait qu'il dit, ça fait au moins 10 ans que ça pousse ça, dans ta tête, cette affaire-là. Là. Fait que, tu vois, là, ça me ramène à 18 ans. Mes angoisses étaient vers 14. Je suis un devin. Je suis le Nostradamus québécois. Et puis finalement, c'est ça, je disais,
pris...
Moi, dans ma tête, j'ai pris ma fille, j'ai dit, c'est pas vrai que je la verrai pas grandir puis qu'elle va grandir pas de père ou pire, avec un autre père. Non, mais j'avais cette image-là, moi, je dis, c'est pas vrai que pour ma fille, je vais être juste comme une photo sur le piano, là. Puis là, avec ses amis, tu sais, j'imaginais comme la scène, là. Je suis scénariste dans la vie, là. Et tu sais, je me dis, là, ah, c'est qui lui sur la photo? Ah, ça, c'est mon père, mais il est mort quand j'avais 3 mois, fait que je m'en rappelle pas, tu sais, mon vrai père.
Ouais, ça
c'est
me fait penser le fameux film, là, la blonde de mon père.
Oui, Julia Roberts avec Susan Sarandon.
Ah, le pire scénario,
j'ai braillé ma vie. J'avais vu ça, là, je braillais ma vie, ça.
Pour mettre en contexte, finalement, c'est ça, c'est la mère, elle apprend qu'elle a un cancer, puis au même moment,
le père, son ex,
une jeune.
Ouais. Une jeune, puis à un moment donné, ils font la paix à la fin, puis elle dit, tu vas bien prendre soin de mes enfants.
Puis c'est à braille.
Allez, écoutez ça, là. Il y a
plein
de plateformes.
Mais je dis bunch, mais c'est pas ça fait 20 ans.
Ouais, c'est ça.
Que le monde se mette à jour.
Ça, et oui, mais c'était un bon film.
Oui, vraiment.
Ça, là. Puis fait que moi, je disais, je vais voir ma fille grandir. Mm-hmm. Puis j'étais comme convaincu, puis j'avais profondément la chienne de tout ça, de mourir. Dès que t'entends le mot cancer, avant... de l'avoir, ça, tu sais, je dis, moi, il me dit, vous avez une immense masse. Moi, j'avais juste un néon qui flashait mort dans ma tête, là, tu vas mourir, ouais. T'es fini. Puis c'est pas un cancer de l'ongle d'orteil, là, tu sais, c'est le cerveau, là. Il y a bien du monde, un cancer du poumon. Ah, ben, ils m'ont enlevé la moitié du poumon, puis je vis très bien. Enlever la moitié du cerveau?
Ça ne se fait pas.
Et fait que là, tu sais, moi, j'étais sur le coup, là, à l'annonce, je peux pas mourir. Ma fille. Ouais.
Mais t'as quand même pris le temps, la veille de l'opération, d'écrire une lettre à ta fille.
La veille de l'opération, d'écrire une lettre que j'écrivais, je dis, tu sais, sache que même si tu me vois pas, je suis là, puis je t'aime beaucoup. Puis quand le vent va venir dans tes cheveux, ben c'est moi qui va te caresser les cheveux. Puis quand le soleil va chauffer ton visage, c'est moi qui va te donner un bisou. Elle dit, je vais toujours être là, même si tu me vois pas.
Comment tu te sentais quand t'écris
ça? Ben, je braillais ma vie. Il a fallu que je la réécrive trois fois. Il y avait trop... Le papier se mouillait tout le temps.
Est-ce que tu l'as gardé, cette
lettre? Je l'ai gardé. Puis je l'avais comme plié, je l'avais mis dans une boîte. Je sais pas pourquoi je l'ai gardé. Et finalement, l'autre jour, je faisais du ménage dans mon bureau. J'ouvre une belle boîte à souliers avec des papiers. Puis je suis retombé là-dessus. Et je l'ai relu, là, puis j'ai eu de la misère à la finir. Je braillais ma vie parce que de bonheur que je n'ai pas eu besoin. Tu sais, parce que je me rappelle plus trop, je l'avais pas donné comme à ma blonde. Je disais, tu donneras ça à Sandrine quand elle aura 12 ans ou 8 ans. Mais j'y avais pas donné à ma blonde parce que j'étais sûr que ma blonde, elle allait me dire, ben voyons, ça va bien aller. Franchement, pense pas à des choses comme ça. Fait que je voulais
avec
pas.
Raison.
Fait que là, je l'avais comme mis dans un livre. Je pense que assurément ma fille allait lire un moment donné, tu sais, puis qu'elle a trop. Et là, écoute,
comme j'ai, films,
mais j'ai tellement braillé en la relisant, là, il y a pas si longtemps, tu vois, je fais pas souvent le ménage de mon bureau, mais je braillais ma vie, tu sais, justement de reconnaissance, de j'ai pas eu à lui donner.
Ouais. Mais je pense quand même que, pas un beau souvenir, mais je pense quand même que c'est quelque chose qu'elle pourrait aimer lire un jour, quand même, tout de même.
Oui.
Bon, là, c'est sûr que j'ai envie de parler du fait que on a vécu similairement la même chose.
Ouais.
C'est sûr que moi, tous les jours, je vis avec le fait que ça peut revenir. On me l'a dit. On me l'a dit que... Hein, on se l'est fait dire.
On se l'est fait dire.
On se l'est fait dire. C'est revenu deux fois pour toi. La première fois, 4 ans plus tard, en 2012.
C'est ça. Fait que en fait, au début, c'est parce qu'il était pas sûr nécessairement c'était quoi. Parce qu'il y avait beaucoup de liquide. Il pensait que c'était peut-être juste un kyste. Tout ça. Fait que ma première opération, c'était vraiment comme une biopsie. Fait qu'ils sont juste allés chercher un chunk, comme tu disais tantôt, là, c'était gros comme un pamplemousse ou une balle de softball, si t'es plus sportif que...
Dépendamment.
Que amateur d'agrumes. Alors, fait que là, c'était gros comme ça, fait qu'ils sont allés chercher comme un 2 piastres. La grosseur d'un 2 piastres.
Mais
là.
Ma question, c'est comment qu'on se sent?
Ah, la veille de
moi,
ça,
je, à chaque fois que je sors de mes résonances, à chaque fois que je sors présentement, ressors de mon rendez-vous chez l'oncologue et que j'ai mon résultat de résonance magnétique, pour l'instant, ça va bien. Mais comment... Toi aussi, ça a été bien pendant 4 ans. Là, moi, ça fait juste 3 ans. Comment qu'on sent quand que là, c'est comme...
rehaussement, le maudit mot qu'on n'aime pas, le rehaussement. Pour moi, je pense que ça a été pire la première fois parce que je savais pas à quoi m'attendre. Je savais pas si mon neurochirurgien était bon. Je savais pas s'il savait dans quoi qu'il s'embarquait, dans quoi moi je m'embarquais. Et ça a été terrible ça de dire, voyons que toi qui vont m'ouvrir le crâne, qui vont jouer pendant 10 heures dans ma tête puis que je vais ressortir indemne de là.
Puis là, la deuxième fois, tu le sais.
Puis là, je sais comment ça va se passer. Je le sais que mon neurochirurgien, c'est comme le meilleur au pays. Il est bon. Il m'aime beaucoup. Fait que je sais qu'il fait attention à moi. On a développé une relation. Ça a comme été une bromance, nous deux.
Okay,
ça a vite connecté. Mmh. C'est un gars qui... C'est un
moi
gars
aussi,
qui...
je l'aime bien, mon neurochirurgien, je l'aime bien.
Oui, c'est une chance. Il faut les aimer parce qu'on leur fait confiance aveugle. Il nous voit tout nu, le crâne ouvert pendant de longues heures. Il faut que tu fasses confiance à tout le monde.
Avec une belle lumière bien blanche. Oh,
c'est ça. Il nous connaît tout. T'sais, il m'a vu pas de face 3 fois 10 heures. Puis il continue à m'aimer. C'est de l'amour.
Donc.
Mais bref, c'est ça. Fait que moi, j'avais vraiment peur. Et je m'en suis comme bien remis de mon opération assez rapidement, ma première. Alors, quand il m'a dit. C'est revenu, c'est gros, mais je le savais dans le fond que j'allais me faire réopérer dès le départ parce qu'il avait juste pris un chunk puis il a dit on veut savoir c'est quoi avant de choisir c'est quoi le traitement. Fait que quand j'ai eu ma première opération, ils ont analysé, ils ont fait c'est cancéreux, on va faire de la chimio. Et là, j'ai fait de la chimio pendant 4 ans. Un moment donné, j'ai recommencé à avoir des gros maux de tête, puis la chimio allait bien. Tu sais, je tolérais bien le médicament, puis ça a eu vraiment un bel effet.
De ce que je sens que tu me dis, c'est parce que je sais qu'à la maison, c'est ça qu'on se demande. Est-ce que c'est dépression, ma vie, ou au contraire, on est plus en mode, OK, je vais me battre encore, puis je me suis battue une fois, puis ça a bien été.
C'est ça. C'est moi, ça a vraiment okay. fait. C'est moi, c'est quand j'ai ressenti la pression dans ma tête, qui m'a rappelé exactement le même feeling qu'au début de l'aventure. Comme je te disais, j'étais à Cuba, je suis tombé à genoux, la pression dans ma tête, je pensais que mon crâne allait éclater, puis j'ai vraiment fait « shit okay. », c'est revenu. J'ai appelé mon médecin, je dis « je veux une résonance, je pense que ça va pas bien ».
OK, donc tu le savais, avant que ton oncologue te dit, tu le savais déjà à Cuba, tu le savais.
Je le savais parce que j'étais déjà en chimio, fait que je dis « si là, chez ça, ça veut dire que la chimio marche ». Plus ou la dose marche plus. Fait que je le savais que la seule affaire, c'était une opération qui allait arriver.
Bon, donc, à Cuba, finalement, il y avait, c'est sûr qu'une déception, on va se le dire.
Ah,
mais
oui,
il y a toujours une petite voix à l'intérieur. Mais moi aussi, j'allais cette petite voix-là qui me dit que ça va. Moi, ça me fait chier que la pandémie, on dit. Parce que moi, j'ai eu mon cancer avant le fameux ça va bien aller de la pandémie.
Okay.
Puis moi, c'était mon mot. Ça va bien aller, mais je peux plus l'utiliser.
Tu peux plus l'utiliser, bon, puis tu peux plus dessiner l'arc-en-ciel.
Non, je peux plus faire ça. Mais donc là, après...
Fait que là, j'ai été réopérée.
Ça a bien été, mais après ça, tu as eu quand même, je dirais, de 2012 à 2021, tu as quand même eu un genre de 9 ans que ça a bien été.
Oui, à peu près, parce que là, tu vois, ils m'ont opéré en 2012... Et à fin 2012, j'ai fait de la chimio pendant 2012 après mon opération, puis j'ai fait de la radiothérapie. Ça a été tough.
Ça a été la première fois pour toi.
Première fois, puis dernière, parce qu'ils m'ont donné le maximum de radiation que je pouvais avoir.
Ben, c'est ça. Puis comme
je pensais vraiment devenir Spider-Man. Mais ouais, toi,
mais moi, j'ai eu la radio. Moi, j'ai eu toute chimio, radio. Mais tu sais, on s'entend que toi et moi, on n'a pas vécu ça dans les mêmes années non plus. Moi, c'était en 2018. Toi, c'était en
2012, 13. Fin 2012, début 2013.
Moi, j'ai eu chimio, radio, opération, one shot. Toi, bon, la première fois, pas radio. La deuxième fois, oui. Après, bon, pendant 9 ans, c'est quand même bon, 9 ans. Là. Comment tu t'en es sorti dans ces 9 ans-là? Du sens que, est-ce que tu as été capable de vraiment, comme, pas oublier, mais un peu moins oublier,
Puis je te dirais que même pendant... Tu sais, mais tu sais, moi, ma chimio que je faisais, c'était comme 5 jours par 28 jours.
Ouais, moi aussi.
Fait que c'est sûr que, tu sais, quand je prends mes pilules, je fais pas, j'ai pas le cancer.
OK, pendant les pilules, tu parles.
Mais pendant les pilules, tu sais, j'allais mal cette semaine-là, mais à un moment donné, je me disais, regarde, ils font ça pour le bien, puis j'ai une équipe de médecins tellement géniaux. Puis mon oncologue, elle a à peu près mon âge. Elle a un enfant de l'âge à ma fille. Puis là, ça fait 13 ans. Il était naissant quand elle m'a pris en charge. Puis là, nos enfants vont à la même école. Ils ont le même âge. Fait qu'on dirait vraiment qu'ils m'ont adopté un peu, tu sais. Puis mon neurochirurgien aussi. Fait que je sentais tellement que j'étais pris en charge, qu'ils voulaient mon bien. Fait que moi, dans ma tête, c'était juste, ils veulent mon bien. Puis ça a marché une fois. Ça va remarcher. Fait que je me levais pas le matin tout le temps en me disant j'ai le cancer, je suis malade. Non. Je prends soin de moi, puis j'ai un bobo, puis on s'en occupe, puis il y a du monde qui s'occupe de ça.
Donc, la récidive, finalement, ne t'a pas jeté à terre.
Ne pas jeté à terre au complet, parce que je savais qu'il y avait encore cette affaire-là qui était là. Mais une fois que après 2012, là, finalement, 2013, mettons, après la radiothérapie, ils m'ont dit, garde, tout ce qui restait de bout de lésion de après opération, après chimio, elle dit tout est nécrosé par la radiothérapie. Mm. Ça a duré 7 ans. De 2013 à 2013 à 2021. Et ça, vraiment, dans ma tête, c'est sûr, j'étais encore suivi en résonance magnétique 3 fois, 4 fois par année, tu sais, aux 3 mois à peu près. Fait qu'il y avait tout un petit rappel, puis justement, moi, entre les résonances, j'étais guéri, tu sais.
Ouais, moi aussi, je fais ça.
Moi, c'était vraiment en mode, la maladie m'a appris ce que j'avais à apprendre sur moi, sur la vie, a changé mes affaires. On dirait, ça a fait, c'est bon, je l'ai eu, j'ai appris, j'ai modifié
certains trucs,
certains réflexes, modes de vie, machin. Fait que dans ma tête, c'était derrière moi. Puis, mais tu vois, là, je dis 2013 à 2021, mais depuis fin 2019, là, en 2019, il y a 2-3 petits nodules qui sont apparus.
Là, juste pour dire aux gens, ouais. Deuxième récidive.
Mm. 2019, puis là, on savait pas si c'était de la récidive ou pas. Parce qu'elle dit, là, il y a 2-3 petites affaires qui sont apparues. On sait pas c'est quoi, ça m'énerve pas, c'est tout petit. Mais ça me tente pas de les échapper, si c'est quelque chose. Fait que là, à place de faire comme 2-3 résonances par année, 4, ben là, j'ai fait au 2 mois, tu sais, parce qu'elle dit, ça m'énerve pas, mais si ça se met à grossir, je veux pas le savoir 6 mois plus tard.
Non, c'est ça, parce que là, on apprend aussi, je trouve, avec juste une petite parenthèse, ouais. On apprend à plus vivre dans le moment présent, parce que ça me passe ce que tu as dit tantôt, puis c'est vraiment ça, moi aussi, je suis sûre que je vais vous le dire, là, tu sais, comme quand je suis dans la salle d'attente toute seule, puis que je sais que je vois mon oncologue, là, il y a un petit stress qui embarque. Mais entre mes résonances, je pense pas à ça. À quoi? On est vraiment dans le moment présent. À quoi ça sert, je pense à ça? Il est même pas au courant. Même si j'ai quelque chose, il est même pas au courant. J'ai même pas fait ma résonance. Puis, je pense que ça fait la même chose aussi avec, on dirait qu'on se dit, au pire, on est juste là pour prévenir. C'est on n'est pas là pour me tuer, là. On est là pour prévenir. Fait qu'on devient comme... On devient
on
avec un mindset.
On se crée une espèce de mindset de tout ça, puis que le mot cancer, puis on avait parlé aussi, tu sais, on apprend à dealer avec, puis de dire pour les gens qui l'ont jamais eu, et moi, le premier, c'était la phobie de ma vie, d'avoir le cancer. Puis à un moment donné, tu l'apprends. Puis au fil des années, tu fais, bon, ben coudonc, oui, c'est une grosse maladie, on la souhaite pas à personne, mais... C'est une maladie qui se traite. Il y a des traitements, il y a des avancées. Puis moi, la chimiothérapie que j'ai faite, elle n'existait pas comme 3 ans avant que je l'aie.
C'est ça, l'espoir.
L'espoir est là. Fait qu'à un moment donné, tu fais, ben coudonc, c'est une maladie. Il y en a qui ont le diabète, il y en a qui ont le Parkinson, il y en a qui ont la sclérose en plaques. C'est sûr, c'est pas un rhume, là, tu sais, mais d'une grosse maladie, tu fais, ben oui, mais c'est pas nécessairement une condamnation à mort. Puis c'est ça que j'ai appris. Il y a des traitements. Je le sais que mon équipe médicale vont faire tout ce qu'ils peuvent pour me sauver. Fait que j'étais en mode, bon ben, je veux vivre, je veux encore être là pour ma fille. Elle était rendue justement à 7-8 ans. Je voulais le faire. Tu sais, elle avait plutôt 5 ans, le monde vont penser, oh, ils ont enlevé la bosse des mathématiques en même temps que sa tumeur. Fait qu'elle avait plus 5 ans. Et je te dis, garde, là, je l'ai vu rentrer en maternelle, je vais la voir rentrer au secondaire après, puis tu sais, je vais la... Fait que je m'étais dit, garde, je suis en mode, tu sais, ça fait partie de ma vie maintenant, c'est pas la vie que j'avais souhaitée nécessairement. Justement, là, puis on dit tout le temps ça, moi puis ma blonde, parce que le monde, des fois, il nous regardait, dit, mais comment tu vis avec cette épée de Damoclès-là au-dessus de la tête tout le temps? Je dis, hein, on est comme le monde le plus heureux sur la Terre. On a du fun, on rit. On y pense pas tout le temps. C'est sûr qu'entre le moment que j'ai ma résonance et mes résultats, est un stress. Puis là,
moi, personnellement, mais là, c'est différent. Chaque histoire, je tiens à dire,
chaque histoire est
différente. T'sais, moi, j'ai pas eu de récidive, mais je vais peut-être en avoir une aussi. Mais regarde, tu vois, même ça, j'aime pas ça dire ça parce que je trouve que ça l'envoie un message que je n'aime pas. Puis, tu sais, je veux dire, si ça revient, je vais pas faire comme « Ah, je me suis plantée » ou « À quoi j'ai pensé ». Ben non.
C'est pas de ta faute. Mais c'est vrai qu'on finit par un moment donné, tu l'as soulevé tantôt, j'y ai tellement pensé.
C'est ça ma question, j'allais te demander. C'est que, tu sais, souvent, tu sais, dans la vie, des fois, on a peur de quelque chose, puis là, on y pense. On a peur, puis finalement, ça arrive. Est-ce que tu t'es dit, ah, j'ai bien fait d'avoir peur tout ce temps-là? Mais je pense que la réponse est non.
Ben non, parce qu'à un moment donné, j'ai dit, j'ai-tu convaincu mon corps que j'avais ça, puis qu'il l'a créé? Mais à un moment donné, non, là, je pense pas que.
Mais ça servait à rien.
J'ai ce pouvoir-là. Mais non, ça servait à rien. Puis ça, je m'en suis rendu compte au fil du temps, justement, l'espèce de stress de pré-résultat, là, l'espèce de semaine d'angoisse, là, je garde.
Ça sert
à rien.
À rien.
Puis je suis le champion de. Même, tu vois, probablement que tu es comme moi, mais donc mon rendez-vous est à 10h15. Puis là, à 10h15, ben elle m'appelle pas. Puis là, il est rendu 10h20, 10h30. Puis là, c'est sûr que ça fait shit. Elle a vu que c'est revenu. Elle sait pas comment me le dire.
Ils sont toutes une équipe, là. Sont toutes en train de parler de moi.
C'est sûr qu'elle a appelé le neurochirurgien. Fou, ouais. Non. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, quand il y a un retard, là... texte-moi, fais quelque chose. Là,
mais, ouais, ben, ils sont dans le jus, eux autres. Là.
Ils sont dans le
ils
jus.
Ils ont souvent du retard, on va se dire.
Puis des fois, ils sont juste partis faire un cas à l'urgence. Puis tout ça. Fait que là, j'ai mon infirmière pivot qui est mon ange gardien. Souvent, à l'heure du rendez-vous, quand elle sait qu'il y a du retard, elle vient nous voir dans la salle d'attente, moi puis ma blonde. Puis là, elle fait, la résonance est belle. Est en retard un petit peu. On a un chat. Il vient. Puis des fois même, ma blonde était super angoissée. Moi aussi, à un moment donné, je me suis comme fait une carapace. Et que je garde, peu importe si je m'en fais ou pas, ça changera rien au résultat. Je veux le savoir rapidement, mais on a tellement développé une relation aussi. Puis là, elle me dit, comment ça va? Puis là, je dis, ben, ça va bien. Comment ça va? Ouais. Puis le petit, puis au final, on se commence. Puis à un moment donné, ma blonde arrête tout le temps la discussion. Et comment la résonance, là? Tu sais, elle dit, on peut-tu parler des vraies affaires?
Moi, mon oncologue, tu sais, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde pas mes images avant de me voir. Ça me fait capoter.
Puis il dit, on va regarder ça.
Ouais. Puis ensemble. Il regarde, puis le gros silence. Mais ce gros silence-là, c'est juste
là.
Genre, ah, je regarde les... T'aurais pas pu les regarder avant, les maudites images, avant de m'appeler? Ça. Ça me met sans connaissance. À deux fois, je le regarde avec des gros yeux, puis après, ah, tout est beau. Hey, moi c'est le plus long silence de ma vie. Je sais que tu le fais tous les jours.
Ben, puis des fois, c'est juste de dire, ah, elle dit les résultats, elle dit, je vois les images, mais j'ai pas la lecture, j'ai pas le résumé là, de la radiologie. Fait que là, elle appelle, là, parce qu'ils enregistrent sur une boîte vocale.
Ouais.
Puis là, elle écoute.
Ah oui, ça,
puis là, j'essaie de lire sa face, puis elle fait « Elle raccroche. Il y a un petit, c'est ça, là, c'est toutes les mini-séances là, qui font « Shit, c'est revenu. »
Mais là, comment ça va aujourd'hui par rapport... Là, parce que quand on s'est parlé, la mi-juin, ça faisait 3 semaines que tu avais eu ton opération.
Ouais.
Tu me disais que tu recommençais à prendre des forces. Bon, d'ici là, qu'est-ce qui s'est passé?
Il s'est passé que, justement, là, d'ici là, ils m'ont réopéré parce que j'avais du liquide qui s'était comme rentré dans la cavité chirurgicale. Ouais. Puis finalement, ils ont enlevé des tissus que finalement, quand ils ont opéré, ils ont vu qu'il y avait des tissus louches. Et là, finalement, la pathologie est sortie et là, il y a eu une récidive encore. Là, mais de faible grade, tu sais, puis c'était mystérieux. Et puis depuis le début de tout ça, là, moi, je suis tout le temps le cas weird des patentes que personne n'a jamais vues. Puis là, mon neurochirurgien, en ouvrant, il dit, parce qu'ils m'ont opéré une première fois pour drainer du liquide.
Ça, c'est 3 semaines avant que...
Ça, c'était comme 2 mois avant qu'on se parle.
OK.
Parce qu'il y avait du liquide qui s'était ramassé dans la cavité chirurgicale. Il dit, je comprends pas pourquoi. Il dit, mais je vais aller t'enlever ça parce que ça me donnait des maux de tête de fou. Mais là, il dit, en allant drainer, il dit, je suis tombé sur une espèce de membrane dure. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ça fait 30 ans que j'opère. J'ai tout vu. Puis il n'y a pas un de mes collègues qui sait c'est quoi. Puis là, il y a comme une espèce de mot là, dans leur comité tumoral, là, parce qu'ils sont présents depuis 13 ans à chaque comité mensuel. Il y a tout le temps mon cas. Fait que là, il dit, hey, lâche-nous avec ton Aubry, là. Il dit, garde, il va bien. On va pas jouer là-dedans. Puis tu sais, il dit, non, mais là, il va plus bien. Puis là, je pense qu'on va y appeler ça des aubryomes, là, ou je sais pas quoi, parce que à chaque fois que j'ai une récidive, c'est tout le temps une patente que personne n'a jamais vue comme type de tumeur, de forme, de texture. Mmh. Fait que c'était encore une affaire que personne n'avait jamais vue. Fait qu'ils sont retournés, ils ont gratté cette espèce de membrane-là. Mmh. C'était une grande possibilité que c'était la cicatrisation de la radiothérapie que j'avais eue comme 8 ans avant.
Mmh.
Elle dit, tu serais dans la zone où que la radionécrose apparaît. Puis finalement, fait qu'on se croisait les doigts que c'était ça. Puis finalement, ils ont fait c'était de la récidive de cancer. Fait que là, la bonne nouvelle, c'est que on a déjà opéré. Mm-hmm. D'habitude, c'est le processus inverse.
Ouais,
d'habitude, on détecte du cancer avec des tests.
Quand on s'est parlé, on ne savait pas encore c'était
on savait
le
pas,
cancer.
C'est ça. Fait que là, c'était cancéreux, mais de très bas grade. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il avait enlevé la majorité de la tumeur, mais que là, il fallait s'occuper de ce qu'il avait été obligé de laisser là à cause que c'était trop dangereux d'aller jouer dans ces zones-là. Parce que, tu sais, oui, on a peur de rester sur la table d'opération, mais il y a pire, c'est que si tu reviens, mais tu deviens un poids là, parce que tu peux revenir, tu te réveilles, mais tu es lourdement handicapé, tu es paralysé, tu es déficient intellectuel, tout ça, fait que c'est épouvantable. Fait que là, il disait... c'est cancéreux, puis il dit, je voulais pas risquer trop. Fait qu'il y a des trucs que j'ai pas été capable d'aller chercher, mais il dit, je l'ai enlevé beaucoup plus que je pensais. Là, je suis en chimio. Je recommence un cycle la semaine prochaine. Je suis à mon troisième cycle. J'ai 6 mois à faire. Mais celle-là m'a vraiment fait chier.
Okay,
cette récidive-là, là, m'a vraiment, vraiment, vraiment assommé parce que dans ma tête, c'était fini. Tu sais, ça faisait 7 ans. Puis c'est pour ça que je t'ai ramené un petit peu tantôt en 2019. Parce que quand les petites lésions étaient apparues, mon oncologue, elle avait dit, garde, on sait pas c'est quoi. Ça a pas de l'air dangereux. Mais là, elle dit, ça grouille, tu sais. Fait qu'elle dit, des fois, ça grossit, c'est millimétrique. Elle dit, les chirurgiens disent que c'est trop petit pour aller jouer là-dedans parce qu'ils trouveront pas. Mais on les voit à l'IRM. Ça prend un petit millimètre à chaque IRM, à chaque 3 mois. Fait qu'elle dit, un moment donné, à moyen long terme, va falloir s'en occuper. Mais elle dit, si tu veux, on pourrait essayer comme 3 cycles de chimio. Puis si c'est de la tumeur, ben on va voir que ça va agir dessus. Puis si ça agit pas, ben c'est que c'est d'autres choses, puis on verra. Et là, ça, là, moi puis ma blonde, dans le bureau, là, moi, j'ai fait non. Non, 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 moi, je refais pas de chimio. Tu sais, dans ma tête, c'était non, 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 c'est fini, là. C'est pas ça qui est supposé d'arriver. C'est pas
ouais,
ça, là.
C'est ça qui est arrivé.
C'est pas ça le plan, là. C'est ça, là, ma blonde qui est partie à pleurer, moi aussi. Je fais non, je repars pas d'ici avec une prescription de chimio, là. Désolé, doc, là, je te fais confiance depuis 12 ans, là. Mais là, désolé, peut-être au prochain IRM, si ça grossit, ça va être dans nos options, mais moi puis ma blonde, quand c'est pointé à ce rendez-vous-là, on prenait des nouvelles.
Puis là, finalement, t'as pas eu le choix de faire de la chimio pareil.
À ce moment-là, non.
À
ce moment-là,
après...
mais après coup, ouais. Là, j'ai pas le choix parce que là, ils ont découvert c'est le cancer finalement.
Puis ça faisait combien de temps t'avais arrêté la chimio dans ce temps-là?
9 ans.
C'est ça, ça faisait 9 ans. Bon, fait que, OK. Fait que donc, la première fois, je pense qu'on l'a un peu pareil. La deuxième fois, c'est ça, tu te sentais comme un. C'était comme je vais aller au combat, mais
fois,
la troisième fois.
J'étais encore là-dedans, tu sais, parce que je venais de faire une opéra, je venais de faire la chimio, tu sais, j'avais, tu sais, depuis
ouais,
le début.
Là,
moi,
t'avais comme mis ça derrière.
J'étais comme
toi,
en mode,
là,
ouais, j'étais
comprends.
En mode, j'ai ça, puis regarde, je le tolère bien, tant mieux pour moi. Ils me disent tout le temps que j'ai un système de cheval. Et, fait que, tu sais, je le tolérais bien, j'avais même pas arrêté de travailler, je pense, là, tu sais, je commençais ma carrière, j'étais motivé, puis ça allait bien, puis. Tu sais, je travaille pas sur la construction, là. J'écris des jokes, là. Fait que, tu sais, j'étais capable. Puis
mais
tout
là,
ça,
la dernière fois, tu t'es dit, là, ça commence. Après 9 ans, j'imagine que.
Après 9 ans, là, j'étais comme, j'étais plus ouais. Là. Même si, malgré les IRM, c'était vraiment derrière moi. C'est sûr que là, il y avait eu les petites alertes, là, des petits nodules, que là, on était plus là-dedans.
Mais tout de même, toi, pendant toutes ces années-là, je trouve que qu'est-ce que tu me dis qui t'a beaucoup aidé, puis moi aussi, c'est pareil, c'est l'humour.
Oui.
Comme, tu sais, là, je tiens à dire, on a comme fait beaucoup d'humour durant le balado, là, mais c'est vraiment pas pour minimiser
pas
ce qu'on vit ou aussi les proches. C'est important de parler des proches aussi, là. Je trouve que des fois, c'est pratiquement plus eux qui souffrent que nous.
Ah, ben oui.
Mais c'est pas ça, on fait ça, je pense, parce qu'à un moment donné, je pense que tout le monde fait ça dans n'importe quelle situation que tu vis une peine d'amour, la mort de quelqu'un. C'est que des fois, on dirait qu'on a besoin d'en rire juste pour comme décompresser. C'est comme, ça a été thérapeutique pour toi aussi, je pense.
Vraiment, moi, puis tu sais, c'est mon mode de vie, tu sais, c'est mon travail, puis c'est comme ça que je suis. Puis j'avais un humour des fois assez noir aussi de rire des affaires puis des jokes justement là de mort et de tu sais je faisais des jokes de cancer avant, c'est pas parce que je l'ai que c'est plus drôle.
C'est ça, là c'est quand même embêtant, tu sais, j'ai goût de te dire comment ça va aujourd'hui.
Ben ça va bien, tu sais, je veux dire oui, je suis en chimio, je suis fatigué là, mais overall ça va bien, ça m'a rappelé de la fragilité de l'affaire. Comme je te parlais avant, j'ai un bon ami qui avait sensiblement la même chose que moi, que pour lui, ça va vraiment pas bien. Fait que j'apprécie vraiment les moments que je vis. Puis depuis tout ça, on dirait que ça m'a ramené, comme tu disais, dans le moment présent. Et là, plus que jamais, puis on dirait que pendant qu'on est dedans, on dit « Ah, après, quand je vais aller mieux, puis que ça va être derrière, je vais me rappeler de pas me tuer à l'ouvrage, puis de garder du temps pour mes amis, puis de prendre le temps de profiter, puis à un moment donné, c'est pas long qu'on se rend compte que la machine nous rembarque, puis qu'on travaille, puis qu'on court, puis qu'on n'a jamais le temps de rien faire, tout ça. Mais là, on dirait que c'est un petit wake-up call, ben un gros wake-up call, parce que je l'ai trouvé vraiment tough. Puis l'opération, là, j'ai eu 3 opérations en 3 mois, j'ai eu vraiment de la misère à m'en remettre, contrairement à mes autres opérations qu'après 10 jours, je faisais du traîneau à chien dans les Laurentides. Là, ça a vraiment été long, ça a vraiment été tough. Je veux plus que ça revienne. Là, cette fois-là, on dirait que j'ai la motivation, là. Faut plus que ça revienne.
Puis, ouais, mais je te comprends.
Mais ça m'a rappelé, tu sais, puis on avait parlé ensemble, mais je me rends compte aussi qu'il y a eu beaucoup de positifs à travers ma maladie. Ça m'a rapproché de beaucoup de gens. Ça m'a créé des amitiés qui sont là pour la vie. Des gens qui étaient des connaissances, mais qui se sont tellement investis pour nous aider quand on avait le bébé, puis l'opération, puis le déménagement, que c'est devenu des amis inséparables pour moi. Ça nous a créé, ça nous a rapproché, ça m'a ramené aussi à des valeurs plus... Tu sais, je suis un gars qui misait beaucoup sur la carrière, puis... Je voulais écrire, je voulais réaliser, je voulais faire des grosses séries puis des gros films, puis je travaillais beaucoup, puis je cherchais tout le temps des nouveaux projets. Puis là, je me disais, hey, on peut prendre le temps juste de vivre, puis d'être.
Aussi, là.
Puis j'ai appris.
Mais il faut quand même se forcer à se rappeler tous les jours. Parce que moi, personnellement, je trouve qu'on oublie vite l'être humain. Moi, mais j'avoue que toi, t'es récidive, ça doit encore plus comme faire.
Ça me le ramène. Puis là, il y a eu la pandémie. On s'est installé au chalet pendant toute la pandémie. On travaillait un peu à distance. J'ai fait, hey, on peut vivre au ralenti et être très, très, très heureux et très, très, très bien avec peu de choses. Fait que je pense que ça, plus la pandémie, plus, je pense que j'ai vraiment un peu ralenti le beat de vie. On peut vivre avec moins, en faisant moins de choses, puis être très heureux.
Mm-hmm.
Puis justement, je me dis souvent depuis 13 ans, quand je vis des beaux moments, ça peut être un lever de soleil, une ride de ski, un souper avec des amis, d'ouvrir une bonne bouteille de vin avec des amis, tu fais hey, j'aurais pu ne pas être ici en ce moment.
Ouais.
Puis rater ce moment-là, puis je parle pas d'être au sommet de l'Everest puis du Kilimanjaro, là. J'aurais pu ne pas vivre ce souper-là où j'ai tellement de plaisir, je suis heureux, j'ai des bons amis, j'ai une famille extraordinaire. Ma fille est la plus belle chose au monde. Elle a 13 ans aujourd'hui, puis je l'ai vue rentrer au secondaire, je l'ai vue rentrer au primaire, je l'ai vue avoir son premier chum. J'ai pu le surveiller, il est super. Mais c'est toutes ces étapes-là que j'ai eu peur de pas vivre, je les ai vécues. Ça m'a rendu, je pense, plus humain. Plus, tu sais, j'étais déjà très, très sensible, mais il y a du positif vraiment, là. Justement, si j'en crève pas, là, il va y avoir du positif. Mais même si éventuellement ça va mal, je pense que ça va avoir fait de moi, je pense, une meilleure personne, puis ça m'a rendu plus sensible aux petits bonheurs de la vie qui sont des grands bonheurs, en fait.
Oui.
Ça paraît qu'il t'aime, mais c'est ça.
Mais oui, vraiment. Puis en réalité, tu sais, on dit ça pour nous parce qu'on. On a vécu ça, mais comme je dis, c'est facile d'oublier. En réalité, on devrait tous se dire ça.
Tout le temps?
On n'a pas besoin de vivre un traumatisme pour se dire « Ah, tu sais, je suis chanceuse d'être là ce soir avec toi, puis discuter. »
C'est vrai,
avec
c'est une chance.
C'est une chance d'être avec
c'est
moi.
C'est très réciproque.
Mais tu sais, juste comme, pas besoin d'avoir un cancer non plus. Pour, je pense que c'est important de se le rappeler. Mais moi aussi, j'ai vu beaucoup de positifs à travers cette maladie-là. Mais merci beaucoup, Stéphane.
Ben, ça me fait plaisir. Merci à toi de faire cette belle série qui, j'espère, va amener de la lumière. Parce que je suis impliqué beaucoup dans les relais pour la vie depuis longtemps. Et leur slogan depuis quelques années, c'est « La vie est plus grande que le cancer ». Et c'est vrai.
Oui.
Puis si jamais vous êtes touché par ça, moi, dans mon tempérament, je suis pas de type batailleur, je suis pas de type agressif. Puis j'aimais pas ça, le terme « se battre contre le cancer » parce que tu te lèves, tu sais que ça va faire mal. Se battre, ça fait mal, c'est souffrant. Moi, mon petit slogan, c'était « Je veux pas me battre contre le cancer, je veux guérir du cancer. » Et je dis « Je vais mettre autant d'énergie puis de force puis d'effort à guérir qu'à me battre. Je vais en venir à bout, mais je me levais pas le matin en me disant « Aujourd'hui, je me bats. Aujourd'hui, je guéris. »
Ouais, puis
ça te met dans...
Mais c'est très bon ce que tu dis, mais aussi c'est très bon de trouver ses propres mots puis sa façon de vivre ce cancer.
Il y en a que c'est difficile. Je suis en train de revenir un peu sur cette affaire-là parce que là, les derniers 6 mois, là, je te dirais que je me suis battu. Je l'ai trouvé vraiment tough. Puis là, je me suis battu. Mais je dirais pendant les 12 années et demie, là, j'étais en mode guérison. Puis je pense pas que la pensée positive peut guérir tout, là. Mais ça te met dans un état d'esprit différent qu'être en mode combat tout le temps, c'est épuisant.
Ouais, c'est ça. C'est pour ça, choisir aussi ces mots, choisir la façon de le vivre, ce cancer-là. C'est, puis comme c'est vraiment important pour moi de le dire, tu sais, on parle de nos expériences, mais chacun a le droit de vivre son expérience. Ouais. Comme Calais, t'as le droit d'être fâché, t'as le droit, pendant 10 ans, si tu veux, pendant toute ta vie, si tu veux, t'as le droit. Nous, on est juste là pour vous dire que il y a
du positif.
Tu sais, c'est ça. Je pense, tu sais, qu'on pense pas à ça à toutes les heures de la journée. Non. Puis on n'a pas l'angoisse. Là. L'angoisse, on la connaît. Là. On le sait, c'est quoi cette angoisse-là. Elle finit par passer. Là.
Elle finit par passer, ouais. Mais puis dernière chose.
Oui.
C'est ça, parce que dernière chose, je finis par finir. C'est vraiment un running gag dans ma vie. Tout le monde dit « Arrête! »
Dernière chose, s'il te plaît. Ah oui, vas-y.
Non, mais.
Vas-y, Stéphane.
Je l'ai passé beaucoup avec humour, puis un peu en dérision, puis j'en ai ri beaucoup, puis ça a été un moyen de défense extraordinaire pour moi. Mais là, avec ma psy, ce que je me rends compte, qu'est-ce qu'elle se rend compte, qu'elle m'a fait rendre compte, j'ai énormément de colère à libérer en moi.
Ah,
fait que peut-être
ouais.
que la colère et la frustration de dire. Pourquoi moi? C'est pas juste, tu sais, il y en a tellement de monde qui aime pas la vie, qui veulent en finir. Je suis le gars qui aime le plus la vie au monde, puis on veut me l'enlever. Pourquoi moi? Puis toute cette colère-là, cette espèce d'injustice-là, de dire pourquoi ça arrive à moi? La vie est belle, elle est bonne, je l'aime. Là, faut que je trouve une manière d'exprimer ma colère. Je vais me mettre au kickboxing. Je ne sais pas.
Faut que je trouve une manière d'exprimer ma colère.
Aller fesser sur des affaires avec une masse.
Mais tu sais, tu dis pourquoi moi? Mais une personne sur deux va avoir un diagnostic de cancer dans sa vie.
C'est ça.
Puis donc, c'est sûr que c'est pas toi, un de tes proches. Donc,
c'est
pour ça que c'est important d'en parler aussi. Fait que
si vous êtes deux à la maison à nous écouter, il y en a un de vous deux qui va l'avoir.
On sait pas c'est qui. Merci Stéphane.
Bienvenue.